Numéris le confirme. BPM Sport a vraiment le plus gros tailgate à Montréal. En un an, Tailgate Weekend double ses parts de marché chez les hommes 25-54. BPM Sport. Maintenant, la radio de sport numéro 1 au Canada.
Vous êtes de retour à Tailgate Weekend. Je salue tous ceux qui nous écoutent via YouTube et ceux sur la messagerie texte également. Ça me fait un plaisir de vous lire. 514-790-0919. Et je serais content qu'on le retrouve pour un deuxième matin consécutif. Il était à Winnipeg hier pour assister au premier but de Lane Hudson dans la LNH. C'est Patrick Friolet. Salut Pat, comment ça va?
Salut FX, toujours à Winnipeg en fait, j'ai un vol en début d'après-midi, donc je profite toujours de la froidure de Winnipeg.
Ouais, mais là hier tu m'as quand même emballé, là. Tu m'as dit que ça se faisait bien, il y avait directement un passage de l'hôtel, ouais, à la patinoire.
Alors, ouais, on triche un peu.
On triche un peu à Winnipeg, là. C'est ça qu'il faut retenir. Là. Écoute, je veux commencer en parlant du positif chez le Canadien, Lane Hudson qui marque ce premier but-là à son 30e match de la saison régulière cette année. Et t'as vu la réaction au banc, les joueurs sur la patinoire, mais aussi les joueurs au banc, avec la réaction de Martin Saint-Louis qui valait mille mots, c'était le fun de voir ça, Pat.
Un très beau moment, puis on voit à quel point Lane Hudson a de l'importance dans ce groupe-là, puis à quel point il s'est senti accueilli dès le départ. J'ai bien aimé sa réponse où il disait j'ai plusieurs frères qui m'ont accueilli ici, puis même certains pères.
Donc, ouais, c'est bon ça.
Oui, on surnomme David Savard Daddy, là, justement. Donc, c'est un peu comme le père, celui qui protège un peu tout le monde. Donc, Lane Hudson se sent bien là-dedans, puis la réaction était spontanée parce que Lane Hudson a été capable d'aller chercher rapidement le respect de ses coéquipiers. Tu sais, il a commencé l'an dernier avec les deux premiers matchs. Bon, là, c'était le joyau, celui qu'on attendait. Il a été impressionnant dans ces deux matchs-là. Mais son comportement depuis le début de la saison, oui, la production, mais la façon, son niveau d'engagement dans les matchs, le fait qu'il abandonne jamais. Il y a des moments où il perd des batailles, mais il va revenir tellement fort, puis même si le joueur est plus gros que lui, il va travailler doublement plus fort pour essayer de récupérer la rondelle. Donc ça, c'est des choses qui s'achètent pas, puis qui font en sorte que Lane Hudson a le respect de ses coéquipiers. Et là, de le voir marquer, ben en même temps, pas plus tôt qu'au milieu de la semaine, là, je lui posais la question à Lane Hudson, est-ce que tu veux trouver une façon de décocher un peu plus les tirs ou de te positionner dans des endroits où tu veux avoir plus d'occasions de marquer pour aller chercher ce premier but-là? Ça lui jouait quand même dans la tête, mais il y en a eu des occasions de marquer plus tôt dans la saison. Là, je me souviens d'un match au Minnesota, ouais, où il fait une super belle percée derrière le filet, fait une cuillère proche de lui, frappe le poteau. J'ai quelques flashs comme ça de Lane Hudson pendant la saison, mais là, on voyait que son niveau de tir, son nombre de tirs augmentait de match en match. Et plus ça va, ben plus il s'améliore, puis il travaille extrêmement dans les entraînements. Là, avant que l'entraînement commence, on voit Lane Hudson décocher des tirs avec Adam Nicholas, donc ça fait partie de sa préparation pour continuer d'améliorer ses armes-là.
Ouais, Martin Saint-Louis l'a dit aussi après le match, c'est le premier de plusieurs pour Lane Hudson dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. C'est un très bon joueur, puis moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa combativité sur la patinoire. Et c'est un mot combativité qu'on risque d'y revenir souvent dans notre intervention ce matin, là, parce que le prochain sujet va parler de combativité aussi. Mais dans le cas de Lane Hudson, c'est sa combativité. C'est un gars qui va récupérer des rondelles malgré son petit gabarit. C'est un joueur qui... Sérieux, je sais pas c'est qui le dernier joueur de talent le plus travaillant. Lane Hudson, c'est un joueur de talent, mais qui travaille. Je sais pas c'est qui le joueur de talent le plus travaillant depuis quel joueur chez le Canadien de Montréal? Sérieux, c'est ce qu'il fait sur la patinoire, travail, talent, marque son premier but enfin dans la Ligue nationale, c'est amplement mérité pour Lane Hudson.
C'est une bonne question, mais en fait, Lane Hudson, dès le départ, c'est que il y a aussi le principe du fait qu'on le sait que on le regarde en se disant il va être désavantagé physiquement. Ouais. Donc lui, il est déjà programmé à travailler doublement plus fort que ses adversaires, mais en même temps, il y a des moments où il pourrait simplement baisser les bras ou simplement patiner puis pas être aussi engagé dans ses duels. Mais son bâton est extrêmement efficace, là. J'en parlais il y a environ deux semaines. Il fait partie des meilleurs défenseurs dans la ligue pour briser des jeux défensivement. Donc il est capable de bien anticiper défensivement, puis ça c'est quelque chose que Martin Saint-Louis répète souvent depuis le début de la saison. Oui, il y a des points, Lane Hudson, mais ce qui est impressionnant, c'est son jeu défensif. Et c'est là où on identifiait des lacunes quand on parlait de lui en préparation pour la saison. On se disait, est-ce qu'il va être capable de se mesurer à des joueurs plus costauds? Tu sais, c'est sûr qu'on regarde la séquence hier où Adam Lowry est devant le filet. Dans un dans un duel pur physique comme ça, ça va être plus difficile. Mais dans une transition défensive, Hutson va être capable d'avoir le bon angle de poursuite, va être capable d'aller se positionner, de lever le bâton de son adversaire, de jouer avec son corps pour pas se faire battre à un contre un. Donc ça, c'est des très belles qualités qu'on identifie dans le jeu de Lane Hutson. Puis pour ce qui est de son but, ben comme tu le dis, oui, ça va être le premier de plusieurs parce que plus ça va aller, plus il va se sentir à l'aise de se positionner dans des endroits où il peut marquer des buts.
Je veux revenir sur la question que tu as posée à Martin Saint-Louis après le match. Et là, quand je vous disais combativité, la réponse de Martin Saint-Louis m'a rendu perplexe. J'en ai parlé un peu plus tôt durant l'émission, mais j'ai été perplexe par la réponse de la question que tu l'as posée sur les pénalités durant ce match-là parce que l'indiscipline a coulé le Canadien. On va écouter Martin Saint-Louis, on va réagir par la suite ensemble.
Oui, c'est des punitions de combativité, tu sais. C'est dur pour les joueurs présentement. La ligne est fine, mais il y a des soirs que tu peux, des soirs que tu peux pas, c'est difficile. Mais on était très combatifs à soi.
Je comprends Kirby Doc, sur son action en première période, il fait tout de la bonne manière pour... Tu le vois qu'il travaille fort, mais quand même, le bâton est trop haut. Au lieu de le garder sur la patinoire, mauvaise punition en première période qui casse le rythme du Canadien. Est-ce qu'on peut dire que la punition de Dvorak est une punition de combativité? Est-ce qu'on peut dire que Anderson en fond de territoire contre Pionk en fin de deuxième, oui, il mettait de la pression, mais est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est une punition de combativité? Gallagher en fin de troisième, ça faisait 1 minute 44, c'est sûr qu'il était sa patinoire, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une punition de combativité? C'est là que j'étais pas d'accord avec Martin Saint-Louis, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Je sais que c'est toi qui as posé la question.
Oui, ben il y a deux aspects là. D'abord le côté Martin Saint-Louis, puis la punition à Kirby Doc. D'abord pour ce qui est de la réponse de Martin, là-dessus je regrette un peu parce que c'est moi en fait qui a un peu insinué ça dans ma question. Tu sais, j'ai dit est-ce que c'était des pénalités de combativité. Donc j'ai ouvert la porte. J'aurais simplement dû lui demander qu'est-ce que t'as pensé des pénalités. Mais en même temps, Martin est arrivé dans un mode tellement positif.
Ouais.
Qu'on avait l'impression que même si on parlait de ces pénalités-là, ça voulait rien dire pour lui parce qu'il était tellement fier de son groupe. Bon, il y a eu de la combativité du groupe en général. Est-ce qu'il y a eu de la combativité dans les pénalités? Ça, j'en doute parce que, tu sais, la pénalité de Kirby Doc, oui, c'est clair, il essaie de plaquer le joueur, mais il doit savoir aussi qu'il doit gérer son bâton. Le bâton atteint le joueur. Et c'est le moment dans le match où Kirby a cette pénalité-là. Le Canadien jouait un très bon match en première période. Dans les devants, on sentait qu'il y avait beaucoup d'énergie dans le jeu du Canadien. Puis là, soudainement, on a cette pénalité-là qui mène finalement à un but en avantage numérique. Puis un autre but 2 minutes plus tard parce qu'il y a un certain rythme que les Jets sont allés gagner tout de suite. C'est là où... Moi, personnellement, ça a cassé le rythme pour le Canadien parce que, oui, on perd finalement 4-2, le quatrième but dans un filet désert. On était là en troisième période, mais ce moment-là, en première période, a fait très mal. Puis, c'est Kirby Doc qui a une mauvaise pénalité. Puis là, ben après ça, Dvorak, qui est victime d'une punition aussi, ouvre la porte en 5 contre 3. Oui, il y a eu toutes sortes de mauvaises gestions de la combativité. J'ai envie de dire ça comme ça. Tu sais, on doit mieux gérer nos bâtons, on doit mieux prendre les décisions, mais en même temps, quand on est souvent en train de défendre, ben il y a des situations comme ça qui peuvent arriver. Pour Martin, ben je pense qu'il est peut-être un peu à court de munitions pour pas trop taper sur ses joueurs. Tu sais, ce qu'il voulait principalement là, à la suite de la défaite de 9-2, c'était une réponse. Ça, je pense qu'il l'a eu. Il y a eu une réponse de ses joueurs. Il y a une réponse positive. Les joueurs étaient engagés dans le match contre les Jets. On finit avec une défaite, mais il y a un certain positif de dire « OK, mes joueurs se sont pas écrasés. » S'il avait fallu qu'on s'écrase en tirant de l'arrière encore dans le match d'hier, on menait 1-0, on se fait marquer 2 buts, ça aurait pu déraper, puis la chaîne aurait pu débarquer encore une fois, mais cette fois-là, la chaîne est restée bien en place, puis on a été capable de tenir le coup et de rivaliser quand même avec les Jets. Ça, c'est quand même très positif, compte tenu du fait que dans la dernière fenêtre de 5-6 matchs, on jouait beaucoup mieux, sauf cette troisième période-là contre les Penguins.
Ouais, puis dans le cas de Kirby Doc, je sais que c'est la victime facile. Je sais que. Puis j'ai pas. Je suis tanné un peu de taper sur la tête parce que je le sais que c'est la victime facile, mais en même temps, c'est pas la première fois qu'on voit ça cette saison. Je trouve ça extrêmement difficile parce que c'est un match. tu peux décortiquer ce match-là autant que tu veux. Tu peux dire le Canadien a bien débuté le match, les 10 premières minutes. On a marqué également le premier but avec Lennartsson. Par la suite, la mauvaise punition en fin de première. Tu t'offres un avantage numérique à la meilleure équipe à domicile en avantage numérique depuis le début de la saison. Tu payes cash cette erreur-là en désavantage numérique. Par la suite, en deuxième période, les Jets reviennent un petit peu plus dans le portrait. Et en troisième, tu connais une bonne troisième période. Mais encore une fois, l'indiscipline te coule. J'essaie de trouver les mots d'encouragement, mais dans le cas de Kirby Doc, c'est... la combativité, moi, je la vois pas encore. T'sais.
Puis c'est pas... c'est un joueur qui a la confiance fragile, oui, on en a parlé depuis le début de la saison, c'est clair. En même temps, moi, il y a certains éléments que j'observais dans le match d'hier. Je te donne un exemple. Juste avant le but de Josh Anderson, on revient d'une pause publicitaire. Donc souvent, c'est là où on a l'occasion de peut-être parler un peu à nos joueurs. Là, on a une mise en jeu en zone offensive. Habituellement, on va mettre des armes offensives. On va peut-être mettre le trio de Suzuki. On va peut-être mettre, si on veut, Patrick Laine, peu importe. On a commencé avec les trios Anderson, Dvorak, Gallagher. Pour moi, ça parlait. Pour moi, d'une certaine façon, c'était je fais confiance à ces gars-là. Je sens qu'ils peuvent me donner quelque chose. Puis finalement, Anderson marque. L'entraîneur a été récompensé dans cette décision-là. Mais tu sais, c'est là où un gars comme Kirby Doc, puis c'est pas le seul, là, t'sais, un gars comme Kirby Doc, Slavkovski, ça doit devenir des joueurs que dans cette situation-là, tu veux les envoyer sur la glace. T'sais, tu veux leur faire confiance. En ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est de bâtir peu à peu la confiance de Kirby Doc qui n'arrive pas à retrouver. T'sais, il a quand même seulement joué 12 minutes 22 à force égale dans le match d'hier. Finalement, 13-59 si on ajoute l'avantage numérique. C'est pas le joueur qui a été le plus utilisé parce qu'il y a certaines situations où on a de la difficulté à trouver son rythme. Mais en même temps, je veux dire, il y avait du positif dans le jeu de Slavkovski d'une certaine façon, mais ça reste que les joueurs s'inscrivent pas sur la feuille de pointage. T'sais. Quand on regarde les buts à la fin de la journée, ben c'est Josh Anderson qui a marqué, c'est Lennartsson. Si on n'a pas d'apport du premier trio, ben on n'a pas d'apport du deuxième non plus. Donc là, c'est là où on a de la difficulté à aller chercher la collectivité dans la production qu'on veut apporter.
Ouais, Slav, c'est un but à ses 23 derniers matchs maintenant. Dans le cas d'Alex Newhook, c'est 6 points, 6 buts en 30 matchs depuis le début de la saison. Mais
il faut quand même donner que Slav a été volé à la fin du match.
Oui, il faut le dire.
Donc ça, c'est... Oh, oui. Oh, ouais, de corner et le bock là-dessus.
Ouais,
puis Patrick Laine aurait pu marquer aussi. Donc, tu sais, c'est là où il y a certains éléments où Connor et le bock est un excellent gardien de but. Mais en même temps, de l'autre côté, Samuel Montembeault a fait de très bons arrêts aussi. Donc, c'est sûr que quand on regarde plusieurs éléments dans le match, on peut se dire, ben là, Slavkovski aurait pu marquer là, Laine aurait pu marquer là. Faut quand même le dire. Mais le résultat final, c'est qu'on a eu de la production seulement de Anderson et de Hudson dans ce match-là.
Il voulait-tu son but, Patrick Laine, après avoir mentionné aux médias juste avant le match que les Bucks avaient le Laine flou? Hey, c'était, il a tiré, je pense, 7 fois durant cette rencontre-là. Il a obtenu des bonnes chances de marquer. Et les Bucks s'est dressé devant Laine. Puis juste le tir dans la poitrine où les Bucks tombe par derrière puis réussit quand même à toucher à cette rondelle-là, c'est Laine le voulait, ce but-là en question. Mais le Canadien, même si on termine le match avec aucun but marqué en 4 avantages numériques, notamment du temps à 5 contre 3, on a quand même menacé. Mais effectivement, quand le Canadien ne marque pas en avantage numérique, souvent, c'est jumelé à une défaite de l'équipe.
Non, exact. C'est j'en parlais dans mon reportage hier à RDS. C'est la 12e fois cette année que le Canadien, sur 30 matchs, n'arrive pas à marquer un but en avantage numérique. Et sur ces 12 matchs-là, où on n'a pas marqué avec un homme en plus, mais on en a perdu 11.
Aïe.
Donc, la seule fois où on n'a pas marqué un but en avantage numérique et qu'on a gagné cette année, c'était contre les Oilers d'Edmonton, où on avait vraiment joué un très bon match à force égale. Tu sais, le jeu à force égale, c'est le pain et le beurre. C'est là où tu différencies vraiment les bonnes équipes des moins fortes. Puis Martin Saint-Louis, c'était un aspect extrêmement important au début de la saison où il voulait vraiment bâtir quelque chose avec son équipe. C'est là où ça va faire la différence parce que si on marque un avantage numérique, ben on doit être appuyé par du bon jeu à 5 contre 5. Et quand on n'arrive pas à le faire, il faut être capable de rivaliser. Là, le match d'hier, la différence, ça a été les unités spéciales où on a ouvert la porte aux Jets. Parce qu'à 5 contre 5, on jouait bien chez le Canadien. On a connu un bon match. Mais dès qu'on ouvre la porte à une équipe comme ça, faut pas oublier que les Jets là sont quand même premiers à domicile dans la LNH pour l'avantage numérique. La rondelle bouge beaucoup. Kyle Connor, c'est un joueur tellement dynamique à qui, dès que tu donnes une opportunité, il y a un tir sur réception à 5 contre 3. Montembeault fait un arrêt exceptionnel.
Ouais.
Puis tout de suite après, on se replace, puis il arrive la même situation, puis finalement, on marque. des joueurs de talent comme ça, quand on leur donne de l'espace sur la patinoire, là, ils n'auront pas besoin de 3-4 occasions, ils vont la mettre dedans.
En 30 secondes, Pat, parce que je sais qu'on est pressé par le temps, je veux te demander, Martin Saint-Louis semblait positif après le match lorsqu'il s'est adressé à vous les journalistes. Et j'ai eu les échos que dans le vestiaire du Canadien, Lainé avait fracassé un bâton, que les joueurs étaient de mauvaise humeur et que c'est pas vrai que c'est un groupe qui aime perdre, c'est un groupe qui déteste la défaite. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ah, je suis d'accord, c'est sûr. C'est sûr qu'on est tanné. Dans le fond, Patrick Lainé, j'étais tout près dans le corridor. Là. On a entendu un bâton se fracasser. Puis on a vu simplement Lainé lancer ce qui restait de son bâton. Il était déçu, il était fâché d'avoir perdu ce match-là parce qu'évidemment, c'était un match important pour lui. Mais tu sais, tout le monde a les épaules basses, tout le monde est déçu. Après ça, ben quand on rencontre les journalistes, on essaye de trouver des explications à tête reposée le plus possible. Mais tu sais, il reste que on se mesurait aux Jets de Winnipeg. Est-ce qu'on donnait une chance aux Canadiens avant ce match-là? On pensait probablement que qu'il allait être déclassé. Ils n'ont pas été déclassés dans ce match-là. Ça reste que c'est ça le Canadien de Montréal en ce moment. On a une équipe fragile, une équipe qui n'arrive pas à produire de façon constante. Puis quand on se mesure au meilleur à travers la Ligue, ben c'est clair que ça va être très difficile de sortir gagnant d'un duel comme celui-là.
C'était un plaisir, Pat, de faire de la radio avec toi cette fin de semaine. Un gros merci vraiment. Encore, c'est vraiment apprécié. Puis on se reparle bientôt de toute façon, mais si on se reparle pas avant, passe un beau temps des fêtes. Puis merci beaucoup pour ton temps cette fin de semaine.
Plaisir partagé, merci FX.